Merci d'être au rendez-vous. Nous allons vous proposer une nouvelle conversation, comme chaque dimanche à cette heure-ci. D'évidence, la question coloniale est plus que jamais au cœur des débats dans l'univers des idées. Ici, dans ce rendez-vous, nous y revenons régulièrement car cette question est complexe. Aujourd'hui, nous allons en quelque sorte ajouter une pièce au dossier grâce au travail passionnant d'une historienne, Camille Lefebvre, qui vient d'écrire « Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale Sahara-Sahel ». Dans cet ouvrage très précis publié chez Fayard, ouvrage très documenté également d'une lecture agréable, l'auteur nous explique comment la domination coloniale française s'est imposée au Sahara et au Sahel après l'occupation des deux villes de l'actuel Niger, Agadez et Zinder, et comment cette occupation est devenue colonisation. Voici donc un nouveau numéro du magazine Idées, magazine que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez grâce au podcast. Nous vous conseillons aussi de vous y abonner. Bonjour Camille Lefebvre.
Bonjour.
Je suis heureux de vous retrouver à ce micro. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de l'Afrique saharo-sahélienne. Vous avez déjà publié « Frontières de sable, frontières de papier »,« Histoire de territoire et frontières du djihad de Sokoto à la colonisation française au Niger au 19e et 20e siècle ». C'est un livre publié en 2015. On en avait parlé d'ailleurs dans cette émission. Les auditeurs qui veulent écouter cette émission peuvent la retrouver d'ailleurs sur notre site. C'était donc en 2015. Et là, vous publiez un nouveau livre, « Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale ». Autant dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé votre livre, qui est presque un roman, tellement il est agréable à lire. Il est extrêmement documenté, c'est le fruit de recherches menées par l'historienne que vous êtes, où vous nous expliquez comment donc une occupation soudaine des Français est devenue colonisation, en vous plaçant dans les différents milieux de cette colonisation, les Français... mais aussi les populations locales. Et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'incite nos auditeurs à s'y référer, à le lire même. Vous écrivez, Camille, « L'histoire de l'Afrique dans laquelle je m'inscris est marquée par une histoire sociale qui analyse la complexité des sociétés africaines au regard de l'esclavage et dans des contextes de moyenne durée de part et d'autre du moment colonial. » Pourquoi avez-vous choisi cette période extrêmement précise qui se situe à l'extrémité du 19e siècle, 1898, et au tout début du 20e?
Alors, j'ai choisi de travailler sur cette période d'abord parce que c'est le début de quelque chose qui construit encore nos sociétés aujourd'hui, c'est-à-dire ce moment de la colonisation. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi de travailler sur ce moment, c'est parce qu'il y a énormément de documentation. On a, à partir des années 1890, un espèce de boom de la documentation, en particulier des documentations africaines, des documentations en Haoussa, en Kanuri, en Tamashek et aussi en arabe. On écrit beaucoup dans les sociétés africaines à cette période, ce qui permet de construire une histoire complexe de ce moment, à la fois à partir d'archives coloniales, mais aussi d'archives africaines.
En privilégiant les témoignages de tous les côtés, en fait, de part et d'autre.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de reconstituer tous les points de vue qui sont ensemble au moment où arrivent les premiers colonisateurs, au moment où commence la domination coloniale, en essayant de retrouver aussi bien les différents points de vue à l'intérieur des militaires coloniaux, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord et n'ont pas tous le même point de vue, et surtout à l'intérieur des sociétés du Sahara et du Sahel, d'essayer de retrouver à la fois ce que pensent les lettrés, mais aussi ce que pensent les différents sultans, et aussi de reconstituer, comme on peut, l'histoire de la population à la fois servile, mais aussi pauvre, et aussi de retrouver des femmes, la complexité de ce monde-là.
Alors, votre zone géographique de prédilection, c'est le Sahara et le Sahel. On peut faire une petite distinction ? entre les deux, Sahara-Sahel ?
Oui, alors on a une zone aride et une zone semi-aride. Et dans cette région, c'est extrêmement important parce que les deux espaces fonctionnent ensemble. Au sens où, déjà au XIXe siècle, on a des circulations très importantes. Pour expliquer ça facilement, on peut penser que les gens du Nord mangent le mil qui est produit au Sud et les gens du Sud mangent les animaux qui sont produits au Nord. Et donc on a entre Sahara et Sahel, spécifiquement dans cette région qui est aujourd'hui le Niger et le Nord du Nigeria, des relations très intenses, à la fois économiques, mais aussi culturelles et intellectuelles, des lettrés qui circulent, des marchandises qui circulent au long des routes transsahariennes et transrégionales.
Alors, j'ai lu votre livre, je l'ai dévoré, et même Camille, avec comme arrière-fond l'actualité qui secoue cette zone, et on est frappé de voir cette arrivée des Français donc à l'extrémité du 19e siècle, dans cette zone qui est aujourd'hui une des zones de turbulence, une des zones de tension du monde.
Tout à fait.
Où les Français sont de retour, pour d'autres raisons, bien entendu.
Où les Français sont, où les militaires français sont encore présents aujourd'hui. On peut dire, et je le dis au début du livre, que les militaires français sont plus nombreux aujourd'hui dans le Sahara et dans le Sahel qu'ils ne l'étaient au moment de la colonisation. Ça peut nous interroger ou ça peut nous questionner. Effectivement, on est dans une zone qui, de nouveau, 120 ans plus tard, est de nouveau un nœud à la fois géopolitique, stratégique, mais aussi de conflits extrêmement complexes. Et je pense que l'histoire peut nous aider aussi à comprendre la situation actuelle.
Alors, vous êtes intéressée, Camille, à deux villes en particulier, Agadez et Zinder. Il faut les présenter, ces localités, telles qu'elles étaient à l'époque.
Donc, à la fin du 19e siècle, on a donc Zinder et Agadez, une ville du Sahel, Zinder, une ville du Sahara, Agadez. On a une ville très ancienne, Agadez, dont l'existence est attestée depuis environ le 15e siècle, avec un sultan qui a un statut extrêmement particulier, c'est-à-dire que c'est un sultan qui a été choisi par les différents groupes touaregs de la région, mais ils ont choisi exprès quelqu'un qui soit toujours d'origine servile, de manière à ce qu'il ne puisse jamais vraiment les diriger. Donc, ce sultan, il a un statut. Il est puissant à l'intérieur de la ville, il négocie avec le sultan de Sokoto, mais il ne dirige pas l'ensemble des groupes Touareg de l'ensemble du massif de l'Aïr. Donc c'est quelque chose de très important à comprendre. Deuxième ville, Zinder. Donc Zinder, c'est une sorte de boomtown qui a explosé dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a récupéré toute une partie du commerce transsaharien sous la férule d'un grand sultan qui s'appelait Tanimoun, qui est aujourd'hui celui dont le sultan d'aujourd'hui descend, qui a créé une dynastie. Et ce sultan Tanimoun a fait de cette ville de Zinder un passage obligé du commerce transsaharien. Et en quelques 20 ans, 30 ans, cette ville devient une des plus importantes de la région. Et au moment où les Français arrivent, c'est une ville qui veut être l'égale de Kano. C'est une ville très importante. Et la région du Damagaram qui dépend d'elle est un sultanat puissant.
Alors, que viennent faire les Français, j'allais dire un beau jour, mais c'est presque ça, dans cette région, Camille Lefebvre?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le lien avec la France commence bien avant que les Français soient sur place, puisqu'il y a des négociations en Europe sur les zones d'influence françaises et britanniques qui font qu'à partir des années 1890, ce qui est aujourd'hui le nord du Niger est passé dans la zone d'influence française sans qu'aucun Français ne soit jamais allé dans la région. On a tracé une première frontière de papier et désormais, les Français, 10 ans plus tard, commencent à se dire, bon, il faudrait qu'on aille s'implanter dans cette région qui est censée être notre zone d'influence. Et comme ils ont des possessions à la fois dans ce qui est aujourd'hui le Gabon, le Sénégal et le Mali et puis l'Algérie, l'idée est de réunir l'ensemble des possessions françaises et de se retrouver au niveau du lac Tchad pour construire un espace cohérent des différentes colonies françaises en Afrique. Et donc des missions arrivent avec ce but-là, sans que les Français n'aient aucun lien préalable avec la région, sans qu'ils la connaissent vraiment, à part par les récits d'autres explorateurs venus d'autres pays.
Alors qui prend la décision? Vous nous l'expliquez très bien dans le livre, parce qu'on a l'impression que tout vient du gouvernement, mais non, il y a aussi des initiatives de militaires ou d'explorateurs, même qui veulent organiser des expéditions. Qui décide qu'il va y avoir ces colonnes, cette mission vers donc ces deux villes, Agadez et Zinder?
Alors ce sont à ce moment-là en particulier les officiers et les officiers qui s'intéressent au continent africain qui vont être très volontaires pour essayer de convaincre leurs autorités supérieures qu'il faut absolument s'installer dans ces régions-là. Donc ce sont notamment souvent ceux qui sont basés en Algérie ou alors ceux qui cherchent à faire carrière dans l'armée française et pour qui une mission en Afrique peut donner une assise qui leur permettra ensuite d'avancer dans leur carrière. Et donc ces hommes-là essayent de convaincre leurs autorités supérieures que c'est le moment d'aller au moins traverser, parcourir ces régions, puisque d'un point de vue européen, lorsqu'il y a le parcours de ces régions par un Français, ça là donne des droits au moment des négociations de frontières ensuite avec les autres pays européens.
Alors, il y a le gouvernement, mais il y a aussi une sorte de lobby colonial qui existe à l'époque.
Il y a tout à fait un lobby colonial, le lobby du Comité de l'Afrique française, oui. Qui est très puissant, qui réunit à la fois des journalistes et aussi des gens qui ont des intérêts économiques en Afrique, et qui, eux, poussent pour que la France se décide, selon leurs termes, hein, enfin, à s'installer concrètement dans ces régions dont ils espèrent qu'elles permettront d'acquérir d'importantes richesses.
Donc là, nous sommes très clairement à la fin du 19e siècle, à l'extrémité du 19e siècle.
Exactement.
Quasiment à l'époque de l'affaire Dreyfus qui commence.
Exactement. Tout à fait, il y a un lien entre les deux, puisque un des premiers officiers qui va arriver dans la région est le fils du ministre qui gère l'affaire Dreyfus à ce moment-là.
Quel est l'objectif des Français à l'époque dans cette volonté de conquête et de domination? Un objectif économique ou en quelque sorte un objectif messianique?
C'est un objectif de puissance, je dirais. Et il y a certainement un peu des deux. Alors, on considère déjà à l'époque que ces régions-là sont certainement économiquement peu intéressantes. Il faut penser aussi que à l'époque en France, il y a des débats importants sur l'intérêt de coloniser ou pas ces différentes régions. Il n'y a pas d'unanimité sur la question de la colonisation. Et au contraire, des lobbies comme ceux dont on a parlé sont obligés de pousser un gouvernement qui est plutôt frileux et qui hésite à... Parce qu'il faut penser que... La domination coloniale, envoyer des militaires, ça coûte cher et donc c'est pas toujours bien vu du point de vue des gouvernements. Et donc, mais il y a clairement une volonté de puissance de la France. Hein. On a l'habitude de dire que c'est lié à la défaite des années 1870 et la volonté de s'affirmer comme une puissance mondiale. Et c'est par la domination coloniale que la France va chercher à retrouver sa puissance.
Donc on se souvient qu'à l'époque, grosso modo, il y avait effectivement deux écoles. Il y a l'école Ferry, Jules Ferry et l'école Clémenceau.
Tout à fait.
Hein, c'est-à-dire la colonisation pour civiliser et l'école Clémenceau qui critiquait cette façon de voir les choses. Donc on décide, c'est le gouvernement qui décide finalement de mener ces expéditions, cette expédition.
Oui, de les envoyer. Alors, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas clair quelle sera la suite de ces missions. C'est-à-dire qu'on demande à ces gens de parcourir ces territoires. On leur demande de par leur parcours, de donner des droits à la France d'un point de vue du droit international. Mais il n'est pas clair que la suite sera d'occuper ces territoires et de construire la domination coloniale. C'est très important.
C'était extrêmement intéressant.
Parce que ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que la plupart des acteurs qui sont sur le terrain à ce moment-là ne peuvent pas savoir ce qui va se passer après. Nous, on sait. On sait qu'ensuite la domination coloniale va durer 60 ans. On sait ensuite qu'elle va être extrêmement dure pour les sociétés africaines. Mais autant du point de vue des sociétés africaines que des militaires français, on ne sait pas ce qui va se passer au moment où ça a lieu.
D'ailleurs, vous écrivez, Camille, le monde dont il est question alors n'est pas encore le monde colonisé, coupé en deux de Frantz Fanon.
Tout à fait. Les choses sont beaucoup plus complexes. On est dans un moment où les choses sont un peu grises, où effectivement certains militaires français vont... parler au nom d'Allah, vont écrire des lettres en arabe, où certains parlent des langues africaines. Et de l'autre côté, on a aussi des lettrés musulmans qui vont produire des discours disant que l'arrivée des Français est peut-être un bien dans une société qui est très corrompue. Donc on voit des discours qui aujourd'hui nous paraissent étonnants, mais qui sont liés au fait que les gens ne peuvent pas savoir comment la suite de l'histoire, comment les choses vont se passer.
Nous allons parler dans un instant, Camille Lefebvre, de l'arrivée des Français dans ces deux villes, Agadez et Zinder, la manière dont qui a été la leur de s'imposer. Mais parlons de la composition de ces colonnes de Français. Vous nous dites, par exemple, qu'il y avait très peu de militaires, finalement.
Oui, alors c'est
français.
Tout à fait. C'est une des choses qui m'a intriguée depuis le départ, c'est que le nombre de militaires français qui ont réalisé les opérations armées qui ont abouti à la domination coloniale sont extrêmement faibles. Ils sont toujours très peu nombreux. Il faut penser que la plupart des missions ont entre 2 Français et 18 Français au maximum. Et même une colonne tristement célèbre, terrible, comme celle de Voulez-les-Chanoines, contenait très peu de militaires français. Le gros des troupes de la France en Afrique, à ce moment-là, ce sont des tirailleurs qui viennent du Mali, qui viennent de ce qui est aujourd'hui, en partie de ce qui est aujourd'hui le Sénégal. Mais ce sont donc des gens qui viennent de régions qui sont déjà sous domination coloniale, qui sont déjà occupées. Et ceux qui les mènent, ceux qui sont dans ces colonnes, ces tirailleurs, sont donc déjà décolonisés.
Alors, il y a 2 colonnes ou une seule colonne qui se divise en 2 pour aller dans ces 2 villes, Agadez-Zindou?
Alors, il y a.
Je simplifie.
Oui.
Exprès.
Alors, il y a des colonnes. Et le principe dont a fonctionné les débuts de la domination coloniale, et qu'il va y avoir des colonnes qui vont arriver depuis ce qui est aujourd'hui le Sénégal et le Mali, et il y en a d'autres qui vont arriver depuis l'Algérie. Donc, celles qui vont arriver à Agadez ne sont pas les mêmes que celles qui vont arriver à Zinder. Elles se terminent à Zinder, mais elles ne viennent pas du même chemin.
Et toujours pour être le plus simple possible dans une histoire qui est finalement très compliquée, quel est l'état d'esprit des officiers qui conduisent ces colonnes?
Alors, pour essayer de retrouver ça, on a plusieurs types de documents, notamment une des choses qui est intéressante, c'est qu'on a évidemment les rapports que ces officiers écrivent à leur administration supérieure, mais on a une source qui est une source nouvelle et qui est très intéressante, ce sont aussi toutes les archives privées de ces officiers. Beaucoup de ces hommes ont donné leurs lettres personnelles, leurs carnets à des institutions de conservation, et aujourd'hui on est en train de découvrir aussi tous ces matériaux, tous ces documents qui donnent une autre version. Évidemment, quand on écrit à son chef, on n'écrit pas exactement la même chose que quand on écrit à un ami qui est dans le poste voisin ou quand on écrit à ses parents. Et une des choses que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de retrouver ça, de retrouver les différents points de vue aussi en fonction de à qui on écrit. Et ce qu'on voit de leur logique, il y a clairement une logique de carrière, il y a clairement le fait qu'ils veulent faire carrière, il y a aussi une logique, ils y croient aussi, ils croient que ces sociétés sont inférieures, ils croient à la hiérarchie des races et ils croient qu'ils ont une vocation à rendre ces sociétés meilleures par leur action. Et donc, les deux choses se mêlent, mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a plein de conflits à l'intérieur de ces militaires et qu'ils sont très rarement d'accord, et que quand on regarde leurs lettres privées, on peut vraiment retrouver leurs différents points de vue.
Alors ces désaccords s'expriment une fois arrivés sur place. D'abord, comment se passent, vous l'expliquez formidablement bien dans le livre, les premiers contacts. On s'imagine, hein, ces colonnes arrivant soit à Zinder ou à Agadez ou dans la région. Comment se sont passées les premières semaines, les premiers mois, comment s'est passé ce choc?
Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que quand les militaires français arrivent, ça n'annule pas tout ce qui existait avant. Et c'est un des points les plus importants du livre, c'est de dire que ces sociétés de Zinder et d'Agadez, elles existaient depuis longtemps avant la colonisation. Elles avaient leurs propres règles, elles avaient leurs propres souverains, elles avaient leurs propres lettrés, savants, elles avaient leurs propres conflits internes. Et donc, quand les militaires arrivent, ils arrivent dans une géopolitique, dans une complexité, dans des mondes qui existent très largement en dehors d'eux. Et donc, pour les gens qui habitent dans ces villes-là, ils sont un nouvel acteur parmi d'autres. Et donc, ils vont devoir s'insérer aussi à l'intérieur de ces conflits.
A priori, au début, ils ne sont pas considérés comme une menace.
Au début, on pense le plus souvent, on est dans des régions qui sont des régions de commerce transsaharien important, on pense que ce sont des étrangers qui arrivent, qui vont négocier, échanger ce qu'ils doivent faire, et puis qui vont repartir. Et ça, c'est très important parce que ces colonnes-là, les premières, elles passent et elles repartent. Et donc, même quand il y en a au bout de la deuxième ou de la troisième, les gens dans ces villes ont toujours l'impression que les gens vont repartir, parce qu'ils vont aller ailleurs, notamment parce que la plupart de ces officiers veulent ensuite poursuivre pour aller au Tchad, parce que le point chaud, c'est d'abord le Niger, mais après, ça devient le Tchad. Et donc, tout le monde a les yeux tournés vers Rabat et ou Rabi et vers la conquête des régions du Tchad. Et donc, ils pensent que ces gens-là, quelle que soit leur violence, quelle que soit leur puissance sur le moment, sont des gens qui vont repartir très rapidement.
Or, c'est le contraire.
Or, c'est le contraire. Effectivement, au fur et à mesure que cette période évolue, les Français sont de plus en plus intéressés de rester. Alors, rester pourquoi ? Majoritairement pour des raisons stratégiques, parce que à ce moment-là, justement, la région de Zinder apparaît comme une tête de pont très utile pour pouvoir continuer vers le Tchad et dans d'autres régions. Aussi parce que ça construit la cohérence de leur territoire. Mais plus les gens pensent que ces gens-là vont partir, puisqu'ils les ont déjà vus partir plusieurs fois, plus, au contraire, du côté de la France, on commence à se dire qu'on va peut-être rester. Et donc, tout d'un coup, les choses basculent.
Alors, il faut analyser, il faut s'arrêter ce que vous faites évidemment dans ce livre, Camille Lefebvre, sur ce moment de bascule. Comment les Français se sont-ils imposés dans ces sociétés complexes, je reprends le mot, marquées par des inégalités, marquées, ça c'est au cœur de votre livre, par l'esclavage.
Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que pour conquérir une ville, les armes suffisent. C'est-à-dire que, dans le contexte d'une bataille, avoir des armes plus puissantes, comme c'est le cas des Français, ça suffit. On peut vaincre et gagner. Mais pour s'imposer et rester dans un endroit où, en gros, au maximum, on a 80 militaires français, pour un territoire, si on pense au Niger actuel, qui fait deux fois la France, mais si on pense aux villes de Zinder et d'Agadez, qui sont des grosses villes, déjà à cette époque-là, hein, d'au moins 20 000 habitants, et qui gèrent des régions qui font presque 1 million de kilomètres carrés, ces 80 militaires, leur fusil à tir rapide ne suffira pas. Donc, ils vont devoir s'imposer par d'autres manières. Comment ça va fonctionner ? Ça va fonctionner par deux biais, en quelque sorte. D'abord, ils vont se servir des autorités politiques et des sultans qui existent déjà. Ils vont négocier avec eux. Au départ, par exemple, à Zinder, ils vont laisser tout pouvoir au sultan de rester en place, c'est-à-dire que quand les militaires s'installent, ils laissent le sultan dans son palais, ils le laissent continuer à percevoir l'impôt, ils laissent ses différents armées et soldats continuer à pouvoir faire des razzias d'esclaves et donc à affirmer leur puissance. Et pendant ce temps-là, ils vont commencer à négocier avec différentes personnes à l'intérieur de cette société. Un des points importants, c'est qu'au sein de ces sociétés, ceux qu'on envoyait pour négocier avec un ennemi, c'était toujours soit des eunuques, soit des forgerons, soit des esclaves de cour. C'est-à-dire des gens qui, de par leur statut, parce qu'ils étaient esclaves, pouvaient être puissants à l'intérieur de ces cours, mais ne pouvaient jamais prendre le pouvoir. Parce qu'un eunuque ne pouvait pas prendre le pouvoir, parce qu'un esclave restait toujours un esclave au sein de ces sociétés. Mais pour les Français, ça ne fait pas de différence quand ils parlent à un eunuque ou quand ils parlent à un esclave de cour. Ils vont le traiter de la même manière. Et ça va avoir des effets profonds à l'intérieur de cette société, parce que ces esclaves de cour, ces eunuques, qui étaient des biens meubles, des propriétés de leur maître, même s'ils étaient parfois propriétaires de 1 000 esclaves, ils étaient toujours inférieurs à l'intérieur de ces sociétés, ils vont se retrouver avec des Français qui leur accordent de l'importance par exemple à leur parole, autant qu'ils accordent à celle de leur maître. Et ça va changer énormément de choses, et ça va faire que certains de ces esclaves de cour, certains de ces eunuques, vont choisir le parti des Français en espérant y gagner quelque chose.
Alors il y a cette question de l'esclavage face à laquelle les Français doivent se situer. Vous parliez tout à l'heure des divisions au sein des officiers. Il y en a qui disent que c'est inacceptable, d'autres qui finalement comprennent très vite qu'il faut jouer avec ça.
Alors au sein de l'armée française à cette époque-là, la sociologie historique militaire l'a bien montré, il y a vraiment une fracture entre d'un côté des gens qui viennent de grandes familles, soit notamment de familles nobles qui ont une tradition militaire depuis plusieurs générations, qui ont un discours très traditionnaliste, qui sont très attachés aux hiérarchies, qui respectent plus ceux qui viennent de Saint-Cyr notamment ou de ce parcours-là. Et on a de l'autre côté un certain nombre d'officiers qu'on appelle sortis du rang et qui, eux, ont souvent des idées plus progressistes qui vont par exemple être plus républicains. Et donc on a cette fracture au sein de l'armée française, on la retrouve là sur ce terrain nigérien, avec d'un côté des gens qui apprécient Maurice Barrès, qui sont marqués par un ethos aristocratique et qui vont parler aux nobles au sein des sociétés de Zinder et d'Agadez en leur disant « vous êtes nos égaux, il faut que nous nous allions pour conserver les hiérarchies sociales telles qu'elles existent ». Et on a de l'autre côté ces militaires plus progressistes qui vont avoir comme discours de dire « vos sociétés sont inégalitaires » et qui vont dire aux pauvres, aux anciens esclaves ou aux esclaves « nous allons créer une société qui sera plus juste et où tout le monde sera égaux ».
Alors il y a ce jeu des Français pour essayer de distinguer les différentes strates sociales de ces sociétés. Il y a aussi de la part des Français l'utilisation de la langue arabe. Et là, vous publiez de très beaux documents où l'on voit des Français mélanger la langue française et la langue arabe. La langue joue un rôle déterminant.
Tout à fait.
Alors, évidemment.
C'est évidemment, forcément, les Français arrivent dans un espace où personne ne parle français à ce moment-là. Et ce qui est important, c'est que à l'intérieur de ces sultanats dont je vous ai parlé, il y avait une pratique d'une diplomatie en langue arabe avec des chancelleries qui écrivaient des lettres en arabe aux autres sultans, qui est très ancienne, hein, qui date de plusieurs siècles et qui est attestée par la documentation. Et lorsque les militaires français arrivent, ils vont s'insérer dans ces réseaux existants. Ils sont donc, on l'a dit, peu nombreux. Ils ont du mal à se déplacer parce que ces régions arides et semi-arides sont dangereuses pour eux. Et donc, ils s'installent dans leur camp et ils écrivent des lettres. Et quel type de lettres ils écrivent? Ils écrivent des lettres en arabe, en disant « Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, Allah nous a donné le pouvoir et donc vous êtes désormais obligés de négocier avec nous ». Et les différents sultans ou chefs de la région leur répondent aussi à travers des lettres en arabe. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart de ces officiers français, en fait, ne parlent pas l'arabe et que les sultans qui leur écrivent souvent ne le parlent pas non plus. Et donc on a toute une chaîne de traduction, une lettre dictée en français est passée en arabe et puis quand elle arrive, elle est retraduite en haoussa et inversement.
D'où le rôle des traducteurs, que vous soulignez d'ailleurs.
Des deux côtés. Le rôle des traducteurs est fondamental.
Ils sont des personnages puissants, influents.
Ils sont extrêmement puissants, aussi bien les militaires français. Alors là, il y a un personnage qui est très intéressant, qui s'appelle Moïse Landerouin, qui est un officier interprète français, qui vient d'un milieu modeste et paysan, et qui a à la fois appris l'arabe, et qui va faire le choix aussi d'apprendre les langues africaines sur le terrain, et qui va apprendre à la fois le haoussa et le tamashek, et qui va avoir un regard complètement différent de ses collègues, puisque lui comprend ce que les gens disent à l'intérieur de cette
société. Alors lui, c'est un personnage remarquable.
Ah oui, c'est un personnage tout à fait fascinant, parce que c'est lui d'abord qui a traduit toutes les lettres qui sont échangées à cette période-là. Donc aussi bien les lettres qui arrivent pour les Français, mais aussi les lettres que les Français écrivent en arabe aux différents souverains de la région.
Alors lui, il ne fallait pas qu'il s'absente.
Effectivement, tout à fait. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a laissé toutes ses archives privées et que à l'intérieur de ses archives privées, on a ses carnets de terrain où il raconte tous les secrets de tout ce que ses collègues ne comprennent pas, tout ce qui se dit dans la ville sur ses collègues et tout ce qu'il a entendu grâce au fait que lui parle haoussa et comprend le tamashek.
Camille Lefebvre, vous écrivez « L'ampleur de l'usage de la langue arabe, de la rhétorique islamique et du pouvoir symbolique de la religion musulmane par les militaires français dans cette période d'occupation est une des découvertes de cette recherche ».
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que les militaires français à ce moment-là vont utiliser la religion musulmane pour conquérir cette région. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un discours qui va être de dire que c'est Dieu, Allah, qui leur a donné le pouvoir parce qu'il leur a donné la force et donc que les différentes populations et souverains de la région doivent se soumettre au nom d'Allah à la République française. Et ça, ils le font dans des textes qu'on a encore aujourd'hui, qu'ils écrivent en arabe dans des sceaux dans lesquels ils disent que la République va dominer au nom d'Allah.
Il y a de très beaux documents d'ailleurs dans votre livre.
Voilà, j'en ai reproduit certains pour montrer comment ces militaires utilisent la langue arabe et le discours de l'islam. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, dans ces régions-là, tout le monde n'est pas musulman. Les conversions massives dans cette région, c'est une région qui est islamisée depuis extrêmement longtemps. On pense aujourd'hui depuis le 9e siècle. Il y a une tradition musulmane, en particulier dans les régions de Zinder et d'Agadez, avec des grands lettrés. Mais on a en même temps toute une population qui est encore largement païennes, comme on dit à ce moment-là. Et donc, voilà, ils font le choix de choisir d'échanger avec les gens autour de cette question de la religion musulmane.
Alors, il y a les Français, mais il y a aussi cette cohorte de tirailleurs. Vous y consacrez quelques chapitres, quelques belles pages d'ailleurs, qui forment un monde à part et qui ont leur camp à part. Et qui constituent donc une société à part.
Effectivement, la question des tirailleurs est une question fondamentale.
Oui, parce que ce sont des Africains qui se retrouvent en Afrique, qui sont toujours en Afrique, mais dans des sociétés qui leur sont totalement étrangères.
Dont ils ne parlent pas les langues, auxquelles ils ont souvent peu accès. Et il faut toujours penser qu'eux-mêmes viennent de régions qui ont déjà été colonisées. Ils n'ont pas la possibilité de s'enfuir, par exemple, puisque quand ils rentrent chez eux, ils vont avoir l'administration coloniale de leur région d'origine qui va leur reprocher d'avoir déserté. Après, il y a un point qui est très important, c'est qu'en fait, les militaires français font un deuxième choix, qui est celui d'autoriser leurs troupes africaines à radier des esclaves. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que l'armée française de cette époque-là, ce sont quelques officiers et sous-officiers français, et derrière eux, des centaines de tirailleurs africains auxquels on a donné l'autorisation de se nourrir sur le pays, selon l'expression de l'époque, ça veut dire de radier des esclaves. Et donc au fur et à mesure que ces colonnes de l'armée française avancent, elles capturent de nombreux esclaves qui sont autorisés à vivre dans le camp avec les tirailleurs. Donc il y a un intérêt économique certain pour ces tirailleurs qui est qu'ils accumulent de la richesse. Souvent, ils sont eux-mêmes descendants d'esclaves dans leur propre société. Et donc quand ils rentrent chez eux après ces différentes campagnes, ils sont devenus riches et puissants, et donc peuvent changer de statut au sein de leur propre société.
Donc ce rap d'esclaves leur permet d'améliorer leur statut, en quelque sorte.
Exactement. Oui. C'est là qu'on touche à quelque chose de complexe. Et oui. Ils sont à la fois dominés, mais c'est eux qui exercent la force. Et en exerçant la force, ils vont réussir à se libérer au sein de leur propre société. Mais pendant ce temps-là, ils auront participé à construire la domination dans d'autres sociétés africaines.
Encouragés donc en cela par les Français, par les officiers français, officiellement. Ou officieusement ?
Non, c'est officiel. C'est officiel parce que concrètement, l'armée française n'a pas assez d'argent pour payer ses soldats. Et au début, ils leur ont accordé une solde, mais cette solde était tellement faible que les gens s'enfuyaient tout le temps. Et donc, comme ils n'arrivaient pas à maintenir un effectif, ils ont déjà fait ce choix au moment de l'occupation du Soudan, donc ce qui est aujourd'hui le Mali. Ils ont fait ce choix de laisser les tirailleurs piller et capturer des esclaves, parce que ça permettait, c'était la seule manière qu'ils avaient de conserver leur effectif et de réussir à avoir une troupe de tirailleurs assez importante.
Alors, on a l'impression, dans notre conversation, que tout se passe finalement dans l'harmonie, mais il faut préciser aussi qu'il y a quand même eu des violences et des combats.
Alors cette région est tristement célèbre pour une des colonnes les plus violentes de l'occupation française en Afrique, qui est celle de la mission Voulez-Chanoine, auquel j'ai consacré un chapitre et dans lequel j'ai vraiment essayé de décrire la violence extrême et les massacres qu'ont opéré l'armée française dans cette région.
Dans cette région de Zinder et d'Agadez ?
Non, c'est avant d'arriver à Zinder et Agadez. Les violences les plus importantes de la mission Voulez les chanoines se sont passés en gros dans les régions qui sont entre le fleuve Niger aujourd'hui et sur la route en allant vers Zinder, mais surtout dans les 200-300 premiers kilomètres qu'il y a eu les violences les plus importantes. Et là, il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est qui c'est qui va réussir à arrêter les massacres de la mission Voulez-Chanoine, ce sont les tirailleurs eux-mêmes qui finalement vont se rebeller contre leur chef, qui veulent continuer leur marche sanglante, et les tirailleurs vont dire que ça suffit, et ils vont se retourner et tuer leur chef Voulez, ce qui va mettre fin à cette colonne.
Vous essayez aussi, Camille Lefebvre, en historienne avisée que vous êtes, de reconstituer les relations humaines qu'il y a pu y avoir à ce moment, à ces premiers instants, ces premières années de domination entre les Français, les tirailleurs d'un côté et la population locale et notamment les femmes bien sûr.
Il y a dans la question coloniale toute une question autour des relations intimes et sexuelles entre les militaires et les différentes composante de la région, notamment, et ça c'est très spécifique à cette région, parce que la colonisation dans cette région du Sahara et du Sahel est exclusivement masculine, côté colonial français, elle est exclusivement masculine jusque dans les années 1920. Donc, forcément, ces militaires français vont établir toute une variété de relations qui vont des plus violentes, qui vont des pratiques de viol, y compris du viol d'enfant, et jusqu'à des relations intimes qui sont presque de l'ordre de l'amour, puisque j'ai retrouvé...
Ah, il y a quelques histoires romanesques, oui, oui.
J'ai retrouvé une lettre d'amour, c'est assez exceptionnel, entre celui qui deviendra le général Gouraud et la femme qu'il a au moment où il est basé à Zinder, qui est une femme originaire du Mali, qui s'appelle Mali actuel, qui s'appelle Ouma Diko, et avec lequel il s'est marié à la mode locale, comme ils disent, et avec lequel il a une relation qui est de l'ordre du sentiment amoureux. En tout cas, c'est ce qu'il lui écrit, et elle lui répond dans une lettre en arabe dans laquelle elle aussi exprime ce qui peut apparaître comme des sentiments.
Alors, nous étions donc dans les toutes premières années du XXe siècle, les premières années de 1900, et vous nous expliquez, Camille Lefebvre, que les années 1905-1906 marquent une rupture importante. Pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs points qui sont très importants à ce moment-là. Alors ça, c'est une piste aussi de recherche à un niveau global. Il s'est passé dans différents endroits du monde un certain nombre de choses en 1905-1906, notamment dans différentes régions musulmanes. C'est une piste à poursuivre. Mm-hmm. Mais particulièrement pour ce qui est aujourd'hui le Sahara et Sahel et l'AOF, l'Afrique occidentale française, une des choses les plus importantes va être l'abolition de l'esclavage en 1905, qui est proclamée par les Français, et on le sait aujourd'hui, qui ne sera dans les faits jamais réellement appliqué. Hein. L'esclavage va être toléré par les autorités coloniales françaises jusqu'aux indépendances. Et donc, à ce moment-là, à l'intérieur de ces sociétés-là, en particulier parce qu'il y a eu tous ces discours d'égalité qui ont été promus par les militaires coloniaux, un certain nombre de gens vont croire que le monde va réellement changer. Notamment ces esclaves de cour dont j'ai parlé, mais aussi à l'intérieur de ces populations, un certain nombre de gens vont avoir l'impression qu'effectivement, les militaires français ont l'intention de construire une société plus juste. Et d'une certaine manière, une partie de l'opinion, en particulier des plus faibles, va basculer de leur côté et va considérer que ces sultans, qui avaient une richesse très ostentatoire, qui étaient parfois violents avec leur population, qui pratiquaient des razzias d'esclaves et contre lesquels la population avait aussi beaucoup de ressentiments, sont peut-être moins, les Français sont peut-être moins pires, et donc il va y avoir une forme de basculement. Et ça va se passer à Zinder, notamment autour d'une histoire de faux complot qui va être fabriqué justement par l'eunuque du sultan.
Oui, ça, là aussi, c'est presque romanesque. Hein.
C'est une histoire absolument fascinante.
On peut le en dire deux mots.
Voilà, toujours très très tabou à Zinder, parce que la personnalité du Belama, donc cet eunuque du sultan, qui va devenir extrêmement proche des Français, si proche qu'il va pouvoir leur faire croire tout ce qu'il veut. Et à un moment donné, il va, avec d'autres membres de la cour, notamment le chef des criots, le Saharkin Makada, et un lettré de la ville, il va dire aux Français qu'un coup se prépare contre eux et que le sultan a prévu de les tuer. Les Français font arrêter le sultan, commencent une immense enquête, 1000 pages de rapports qui sont aujourd'hui aux archives nationales d'outre-mer, cherchent désespérément à trouver des preuves, n'en trouvent jamais, mais à un moment, ils décident que le sultan croit coupable ou pas, tant pis. La vraie question, c'est de se débarrasser du sultanat, qui était, comme ils disent dans certains de leurs rapports, la vraie plaie de cette région. Et donc, ils choisissent d'abolir le sultanat. Et on apprend par d'autres lettres...
À quel moment ils le font ?
En 1906. Mmh. On apprend par des lettres en arabe, écrites notamment par un des marchands les plus importants de la région, Malam Yaro, mais aussi par des rapports personnel que n'a jamais envoyé à sa hiérarchie Landerouin, qu'en réalité, tout le monde sait à Zinder que c'est faux, que ce faux complot n'a jamais existé, et que c'est le Belama qui a voulu se débarrasser de son maître pour prendre sa place, ce qu'il a réussi à faire, puisque les Français vont le nommer à la tête.
Quand je disais que votre livre était presque un roman, c'est un roman fondé sur l'histoire, si je puis dire, mais il est vraiment passionnant parce qu'on s'aperçoit que le facteur humain est déterminant. On a toujours une déformation qui consiste à regarder le monde en des termes géopolitiques et politiques. Là, au contraire, vous expliquez que finalement, tout est mu par le caractère, aussi bien du côté des Français, des tirailleurs, que du côté des populations. Le facteur humain est déterminant.
On improvise beaucoup. Rien n'est si décidé à l'avance qu'on ne le croit a posteriori. Beaucoup de choses se décident sur le moment. Des choses basculent dans des directions que personne n'aurait pu penser à l'origine. Et un des points importants aussi, c'est comment les relations interpersonnelles jouent et changent énormément de choses. Comment, justement, le Bélama arrive à devenir tellement proche de certains Français que ceux-ci croient tout ce qu'il dit. Et inversement, comment, à l'intérieur de la cour de Zinder, certains conflits, notamment parce que le sultan a humilié en public, par exemple, son Sarkin Makada, son chef des griots, et que celui-ci lui en a voulu et n'a rien dit, mais pendant 2 ans a discrètement commencé à dire du mal de lui auprès des Français. Comment des petites choses comme ça vont avoir des rôles déterminants et vont faire que tout d'un coup, les choses basculent.
Alors, vous nous expliquez, je le répète, l'arrivée des Français, les premières années de domination. À quel moment s'installe ce que l'on appelle la colonisation, à proprement parler ?
Alors, je dirais que la colonisation commence vraiment à partir du moment où les militaires français, ce ne sont que des militaires à cette époque-là, prennent en main toutes les institutions régaliennes. Par exemple, quand ils se mettent à percevoir eux-mêmes l'impôt, ça change tout, parce qu'une partie des richesses du sultan dans cette région venait du fait qu'il percevait l'impôt. Et inversement aussi, quand il commence aussi à prendre en main les relations avec les différents pays de la région. Donc c'est ce moment où ils prennent la main sur ces différentes institutions que les choses changent. Parce que, comme on le sait aujourd'hui, ils gardent quand même toute une partie des institutions qui existaient au sein de ces sociétés. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a jamais vraiment eu d'administration directe dans cette région. Il y a toujours eu un rôle important des anciens souverains à l'intérieur de la hiérarchie de la colonisation française.
Et ce qui pose aussi la question de la collaboration, et j'emploie le mot à dessein, des autorités locales, j'emploie ce terme-là, avec les Français.
Ce qui se passe, finalement...
Résistance ou collaboration ?
Alors, ces mots sont très utiles parce qu'ils sont très idiomatiques et nous permettent tout de suite de voir des situations. Mais ce qu'on voit dans le moment que j'ai étudié en particulier est souvent encore plus complexe que ça. J'utilise peu le mot de résistance parce que souvent, à ce moment-là... Les choses ne se déterminent pas uniquement par rapport aux Français. Les choses, elles se déterminent d'abord par rapport à l'histoire de cette région à la fin du 19e siècle. Et donc, ils ne résistent pas encore aux Français parce que leur ennemi, ce ne sont pas encore seulement les Français. Les Français ne sont pas assez puissants, concrètement, pour que ce soit eux qui dominent le jeu politique et donc qu'on ait envie de résister, qu'on ait envie simplement de leur résister. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'à un moment, clairement, alors qu'on avait eu l'impression en 1905 que le monde allait changer et que cette question de l'esclavage allait être transformée, il y a au contraire, presque un an plus tard, un retournement complet de situation et les militaires coloniaux s'allient avec les sultans et les nobles au sein de ces sociétés, avec l'idée claire de conserver les hiérarchies telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une forme d'alliance objective, au sens où les militaires français, comme les différents souverains et puissants de cette région, comprennent que s'ils s'allient, ils vont chacun réussir à conserver leur pouvoir. Et c'est ce qui se passe. Et cette société va être conservée dans ses inégalités, et les hiérarchies sociales vont être figées par la colonisation, au lieu d'être remises en cause, comme le discours colonial avait à un moment prétendu le faire.
Ce qui est assez fascinant en lisant votre livre, Camille Lefebvre, c'est qu'on a l'impression, en tout cas dans les premières années, que les soldats français, les officiers français qui sont sur place font en quelque sorte ce qu'ils veulent, qu'ils n'ont aucune consigne de Paris. C'est très loin.
C'est très loin. Il faut au moins 3 mois pour qu'une lettre arrive à Dakar. Donc forcément, quand on agit et qu'on en informe son supérieur, le temps que la lettre revienne, vous avez déjà eu le temps d'avoir d'autres actions.
Ça, c'est très important aussi, parce qu'il y a une indépendance de fait des officiers sur place.
Et là aussi, on retrouve la question du caractère. Certains respectent les règles, certains respectent les instructions, et d'autres pas du tout, considèrent qu'ils sont tout puissants dans leurs décisions. Et on voit aussi parfois, quand on a les rapports à différents niveaux, à la fois un rapport local et un rapport à la hiérarchie, on voit aussi comment ils arrivent a posteriori à transformer quelque chose qui était une transgression de leurs ordres et à montrer comment c'était obligatoire, par exemple, parce que la situation devenait trop dangereuse. Et donc, très souvent, ils utilisent ça, c'est-à-dire ils disent « nous avons été occupés telle ville ou telle région parce que ça devenait trop dangereux pour une ville qu'on occupait déjà ». Et donc, ils fabriquent une légitimité à leurs actions a posteriori.
Et y a-t-il, à un moment donné, une reprise en main, en quelque sorte, du gouvernement français avec des directives, gouvernement qui crée l'armée coloniale au tout début du siècle, en 1900?
Oui, alors c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand la domination, quand la colonisation s'installe vraiment, les institutions des différentes sociétés de la région sont prises en main. Et de la même manière, cela change aussi la manière dont les officiers peuvent agir dans ces régions-là. Plus la colonisation s'installe, plus ce type d'acte va devenir de plus en plus problématique. Il y a une vraie question, par exemple, autour de ces années 1905-1906, aussi autour du fait qu'on commence à considérer l'arbitraire, ou ce qu'on appelle l'arbitraire, ou la violence pour la violence, va devenir problématique. Et donc, on considère qu'il faut, par exemple, agir dans le cadre légal. Quelque chose qui n'apparaît pas du tout de cette manière-là quand on est vraiment dans un moment d'occupation violent, d'invasion, comme dans les années 1890, fin des années 1890 jusqu'en 1900. Donc on a vraiment un changement aussi dans ce que les militaires peuvent faire au moment où la colonisation s'installe.
Votre livre est véritablement passionnant, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, il faut vraiment le lire cet été, Des pays au crépuscule. Avant de conclure tout à fait cette émission, j'aimerais revenir sur votre travail, Camille Lefebvre. Vous êtes une historienne spécialiste donc du Sahel et du Sahara, du Niger enfin, notamment, et vous vous nourrissez de recherches faites à Paris, mais aussi sur le continent africain. Vous êtes aussi une aventurière, une baroudeuse.
Je n'irai pas jusque-là, mais j'ai un attachement très fort aussi au Niger, où je me rends depuis 20 ans, depuis 2001, depuis ma maîtrise. Ce qui est formidable au Niger, c'est que les archives nationales ont des documents absolument exceptionnels qui permettent de regarder la colonisation, pas simplement du côté de ce qui arrive au niveau de la fédération, mais qui permettent de retourner au niveau le plus local. Et ça, c'est vraiment particulièrement spécifique à ce pays. Mais ce qui est formidable aussi, bon, j'ai beaucoup de collègues avec lesquels j'adore travailler, mais il y a aussi...
J'espère qu'ils nous écoutent en ce moment. Il faut, il le faut.
Il y a aussi beaucoup de sources formidables. Il faut penser qu'on est dans des régions largement haoussaphones au Niger. Et il y a toute une documentation en langue haoussa qui est assez exceptionnelle pour le continent africain et qui permet aussi d'accéder au point de vue de ces sociétés à ce moment-là. Notamment un texte fascinant que j'utilise dans le livre qui a été collecté au Caire, à l'université d'Al-Azhar, auprès d'un pèlerin qui venait du Manga et qui était venu faire des études après son pèlerinage à la Mecque, à la mosquée d'Al-Azhar, et qui rencontre un linguiste allemand qui s'intéresse à la langue haoussa et à la langue kanouri, et il lui dicte un certain nombre de textes qui racontent l'arrivée des militaires français, qui lui racontent la cour de Zinder, qui lui racontent sa jeunesse dans son village du Manga, mais aussi les chants que lui chantait sa mère quand il était petit. Et donc on a vraiment un document qui date de 1904 et qui permet d'accéder aux mots de cette société dans sa propre langue, le haoussa.
C'est une belle aventure intellectuelle que vous menez.
En tout cas, j'en suis très heureuse.
Que vous vivez. Merci Camille Lefebvre. Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, Sahara, Sahel, c'est donc le titre de votre dernier livre en date, publié chez Fayard dans la collection L'épreuve de l'histoire. Merci.
Merci.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.
RFI.